Bonjour à chacun. Ça marche, hein? Bonjour à chacun. Merci pour le groupe de louanges. Merci Seigneur pour ce camp. Changer le monde. Changer les choses avec des bouquets de roses, ça vous dit? Changer les femmes. Changer les hommes aussi avec des géraniums. C'est le refrain d'une chanson chantée par Laurent Voulzy, que ça fait au moins 6 mois que je fredonne, Méline aussi. Laurent Voulzy imagine un monde nouveau, communiqué en s'offrant des roses, du jasmin, du lilas, merci ma femme pour les belles fleurs. Ce qui aurait pour effet de changer les hommes, de changer les femmes. N'est-ce pas ici un thème qui devrait être cher aux disciples de Jésus-Christ que nous sommes ? De communiquer, de vivre des relations autrement que ce qui se passe dans le monde. Ici, Laurent Voulzy nous propose de le faire avec des fleurs. Jésus-Christ nous propose de le faire en nous aimant, comme lui nous a aimés. J'aimerais maintenant vous donner une partie de mon histoire. Une période de mon histoire, j'ai eu besoin d'un référent choisi par moi. C'est une personne que j'ai choisie dans le cadre d'une communauté. Cette personne a très bien joué son rôle sans vraiment en être conscient au début, puisqu'un peu désarmée par rapport à ce que je lui demandais. J'avais besoin d'elle pour prendre la distance envers des dépendances. Elle connaissait mes difficultés, on était amis, et ça rendait l'affaire plus facile. Je l'avais souvent au téléphone, « Philippe ci, Philippe ça, viens ». Faire du vélo et ça me cassait les pieds. J'avais souvent des excuses pour éviter ces invitations. J'en avais pas envie. Mais cette personne a tellement insisté que j'ai fini tout doucement par y prendre goût. J'ai mordu à l'hameçon. Je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait tant d'intérêt à m'inviter. Pourquoi moi ? C'est vrai que j'avais été demandeur d'une certaine ouverture pour m'aider, pour permettre une transparence. Mais là, ça allait trop loin de ce que je pouvais accepter. Et puis quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne lui poses pas la question à cette personne ? Et donc j'ai posé cette question. Pourquoi cette insistance ? Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu apprécies ? Il restait un peu sourd à ma question, et moi aussi. Parce que je venais d'exprimer quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience. Cet ami, à ce moment, m'a donné de sortir de mes retranchements, de mes garde-fous, pour me faire découvrir que les relations, ça pouvait être bon, que ce n'était pas dangereux, qu'il n'y avait pas de risque, un peu à l'image de mes relations avec mon père. Alors que j'étais chrétien, que j'aimais Dieu, j'appréhendais de rentrer dans des relations d'intimité avec d'autres personnes et particulièrement avec les hommes. Mon histoire me donne d'être convaincu que l'Église est le lieu où on guérit. Et pour cela, il faut prendre des gants les uns avec les autres. C'est l'amour que Jésus-Christ nous communique de la part de Dieu qui opère en nous et les uns par les autres des transformations, des reprises de confiance. L'Église est le lieu où, autour de la parole, on apprend à aimer, à être aimé. C'est un lieu de pratique toute particulière, à peine un peu différente que celle propose Laurent Voulzy de nous offrir des fleurs. Notre intention, témoigner que l'œuvre de Christ n'est pas de nous mettre une étiquette de chrétien sur nos fronts, mais qu'elle nous change, l'œuvre de Christ nous change, et cela de façon à devenir des hommes et des femmes qui aiment comme Christ a aimé, et de nous donner de sortir de nos retranchements. Pourquoi donc cette nécessité si fondamentale à notre construction, à chacun d'entre nous, d'être reconnu, d'être aimé ? Il y a en nous comme un écho remontant directement à l'origine des temps. À l'origine où l'homme, avant la chute, vivait cette intimité avec Dieu. Dieu, un Dieu de relation, Père, Fils, Esprit, qui dans son sein prend l'initiative de créer l'homme. Un acte profondément voulu, on pourrait parler d'un fruit. Le fruit de la volonté divine, Dieu nous a voulu à chacun d'entre nous. Créé à l'image de Dieu, donc chacun d'entre nous, créé à l'image du Dieu amour, nous sommes ces mêmes êtres de relation avec le besoin d'être aimé et d'aimer à notre tour. Dans cette perspective, la conséquence première de la chute est essentiellement un manque d'amour. Le manque d'amour, moteur, initiateur à toutes nos relations. Le désir d'indépendance exprimé par l'acte délibéré d'Adam et Ève en mangeant du fruit de l'arbre défendu a eu pour conséquence de nous couper de cette source, de ce cordon ombilical, de l'amour de Dieu. Nous avons perdu le modèle de l'amour à appliquer à toutes nos relations. Cet amour faisant défaut, sont survenus ambition, pouvoir, domination, violence, se sentir aimé à coûte que coûte. Est-ce que vous connaissez ça? Par la force, la séduction, etc. Tout cela a pris le relais. Si le péché est essentiellement un manque d'amour, on peut s'attendre donc à ce que l'œuvre de Christ, à ce que l'œuvre de Jésus-Christ apporte réparation à ce défaut. Et pour cela, il le fait en premier lieu en rétablissant la relation avec Dieu, la relation entre Dieu et l'homme. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voyons ici que Jésus rétablit la relation, et c'est ce qu'il fait. Au verset 26 du chapitre 17, « Je leur ai fait connaître ton nom à chacun d'entre nous. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Nous voyons ici que l'œuvre de Christ est de nous communiquer l'amour du Père, et c'est donc ce qu'il fait. Mais comment l'amour du Père peut-il demeurer dans nos vies s'il ne s'exprime pas, s'il ne prend pas acte, s'il n'est pas vécu au travers de relations? Et Jésus l'exprime toujours au même chapitre, Jean 17, au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau à chacun d'entre nous. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il ne s'agit pas ici de se laisser envahir de l'amour de Dieu sans répercussion. Non. L'œuvre de Christ, c'est de transformer des hommes et des femmes qui, devenant ses disciples, aiment comme lui a aimé. Donc, à la question, est-ce que Jésus rétablit son humanité, dans son humanité, est-ce que Jésus rétablit dans son humanité l'amour originel perdu? Nous pouvons répondre, oui, Jésus le fait. Affirmatif, Jésus l'établit, le rétablit. Jésus se donne à être le modèle pour chacun d'entre nous. Et je vous propose de faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25. Jusqu'à 37. La parole du bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Peut-être que je ne lis pas la même version, si. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à passer cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui. Est-ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai, moi-même, à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi fais de même. » Jésus, ce qu'il enseigne par cette parabole, c'est l'application du commandement de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Jésus, cela, le vit pleinement. Il est en train ici de valoriser le Samaritain, mais en fait, Jésus est ce Samaritain par excellence. Jésus exerce pleinement la miséricorde. Ici, Jésus, il dit ce qu'il fait. Il pense nos plaies à chacun d'entre nous. Il verse de l'huile et du vin. L'œuvre de Christ, il se donne à être le modèle pour chacun d'entre nous. Où vais-je trouver dans la Bible les récits de la vie de Jésus pour y trouver le modèle ? Ça m'intéresse. Dans les évangiles. Donc, dans les évangiles, je vais y trouver un témoignage du modèle relationnel de Jésus-Christ. Par exemple, les personnes avec qui il rentre en contact, ceux qu'il encourage d'un côté, ceux qu'il dénonce aussi, les contenus des paraboles, témoigne de l'amour du Christ et dénonce les égoïsmes particuliers. Nous voyons ici que pour faire connaître Dieu, Jésus-Christ multiplie les relations. Il rentre en contact. Il va au-delà des cercles relationnels admissibles à son époque afin que l'amour de Dieu, dont Dieu l'a aimé, soit à chacun. Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, on peut largement affirmer que l'œuvre de Christ apporte réparation et restauration, la connexion au cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Jésus nous communique l'amour du Père et devient lui-même le modèle pour chacun d'entre nous, modèle que nous avions perdu. Une bonne nouvelle, non ? L'appel à aimer Dieu et son prochain, est-ce nouveau dans la Bible ? L'évangéliste Matthieu, dans la même histoire que l'on a lue, ajoute lui un élément qui me semble important dans la réplique de Jésus. C'est Matthieu 22, versets 36 à 40, dans la même histoire du bon Samaritain. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. C'est là-dessus que je voudrais insister et revenir. À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Matthieu ici nous rapporte l'interprétation dont Jésus faisait lecture de ce que visaient la loi et les prophètes, soit l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En d'autres termes, ce que Jésus dit ici, c'est que le but ultime de la loi et de toutes ses prescriptions avait pour finalité l'application de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et Paul le confirme aux Romains, livre Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. On peut se poser la question, mais est-ce nouveau ? Est-ce spécifique au Nouveau Testament ? Dans l'Ancien Testament, on retrouve la même injonction. Et dans le livre le plus difficile, à mon avis, à lire, qui est le Lévitique, livre qui décrit la mise en œuvre des sacrifices, qui institue les fêtes, etc. On peut lire Lévitique 19, verset 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Ésaïe, chapitre 1, 14 à 18. Tout ça pour voir un peu comment dans l'Ancien Testament, il y a cette visée de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Ésaïe 1, 14 à 18. « Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. » On voit bien ici dans ce passage que le peuple a complètement perdu l'esprit de la loi. Perdu l'esprit de la loi qui visait l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il y a donc une continuité dans les deux testaments, avec une révélation dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ, fils de Dieu, se donne à être le modèle pour chacun d'entre nous, en accomplissant lui-même et lui seul cette loi d'amour. Le Saint-Esprit promis par Jésus-Christ et reçu lors de la Pentecôte a pour rôle d'imprimer, de nous rappeler ces lois dans notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Les conséquences de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, que l'on appelle les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et puis on voit que dans la Bible, il y a une traversée comme ça. Certains auteurs ont parlé du projet Shalom. Le projet Shalom, une continuité dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Shalom, est-ce qu'il y a encore quelque chose entre toi et moi où je te suis encore redevable? Quand on dit Shalom, c'est ça exactement ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a encore entre toi et moi où il y a un endroit où je te suis redevable? Et nous pouvons être certains que les apôtres n'ont pas bâti l'Église sur un autre fondement. Travailler à aimer. Il ne s'agit pas de devenir des hypocrites, mais de travailler à cet amour. Je lisais dans le journal La Croix un témoignage d'un éducateur de personnes, de jeunes handicapés. Une handicapée lui a jeté des excréments dessus. Cet éducateur témoigne, il dit « J'ai toute la violence qui m'est remontée de mes tripes et cette violence m'a fait peur. J'ai compris » C'est ce que dit cet éducateur. J'ai compris que je devais faire un travail sur moi-même pour mieux aimer. Et puis moi, ça m'a parlé. C'est vrai que des fois, j'ai des amis qui ont des problèmes dans la drogue, dans l'alcool ou autre. Et je prie pour eux, pour qu'ils passent au-delà de ces difficultés. Et moi, là-dedans, comment je travaille dans ma propre vie à aimer mon prochain. Aimer donc, c'est en quelque sorte choisir l'unité, le dialogue, plutôt que la séparation. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important ce matin pour chacun de nous? C'est que nous avancions dans l'unité ensemble et dans l'esprit de l'amour du Christ. Ceci est valable pour le camp qui commence le 15 juillet, mais c'est aussi valable pour notre Église. Qu'est-ce qui est important pour toi et pour moi? C'est la façon dont nous allons entretenir nos relations. Et par cela témoigner que nous sommes disciples de Christ. Mais ce qui est important aussi pour toi et pour moi, c'est la façon dont nous allons régler nos conflits, nos différends, nos omissions, nos égoïsmes. Ça, moi, je sais faire. Nous sommes à l'école, chacun d'entre nous, de cet apprentissage. École à aimer. Il va de soi qu'il va y avoir des exercices en droit ou faux. On va se planter, lamentablement. Et puis certains en feront les frais. Il y aura du rouge sur nos copies, mais c'est pour grandir et avancer ensemble. Et du coup, nous voulons regarder nos erreurs autour d'une table, dans l'écoute de chacun, et considérer. Parce que aimer, c'est rencontrer l'autre. Jusqu'où rencontrer l'autre? Bonjour, au revoir, salut, ciao, bonne semaine. C'est facile, hein, je sais faire ça. Jusqu'où rencontrer l'autre? Dans ce qu'il exprime, ce qu'il ressent, le pourquoi, le comment. Allons-nous prier ensemble, nous pardonner et choisir d'avancer ensemble à la suite de Jésus-Christ? Il y aura des fois où on aura oublié de nous considérer. Suite à une maladresse, on sera blessé. Seigneur, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Seigneur, c'est quand même dégueulasse. Hein? Et puis des fois, on sera blessé, il nous faudra peut-être une semaine, deux, trois jours. Abandonnons par la foi notre désir de justice entre les mains de Christ. Cela ne veut pas dire que nous abandonnons que justice soit faite, non. Non, mais que nous en remettons à Jésus-Christ pour faire justice, car lui est le Dieu juste, car Jésus-Christ est juste, alors que notre propre justice, elle est violente, elle est disproportionnée. Si nous voulons ne pas être une association quelconque, voire une ONG, nous avons à prendre en compte, nous disciples, au sérieux, le modèle de notre Jésus-Christ sur nos vies. Aimer de l'amour de Jésus-Christ de nous, aimer de l'amour de Jésus-Christ fait de nous des témoins en marche, vivants et annonçant la réconciliation. Pour le camp, que la trame de fond qui va supporter toutes nos activités soit l'amour de Jésus-Christ. Nous parlons de pratique. J'aime bien l'idée de s'essayer. C'est Frédéric de Coninck qui parlait de s'essayer. Ouais, j'aime bien les pratiques, la pratique de s'essayer. J'essaie, je regarde, et puis je rectifie mon coche avec toujours le but d'aimer davantage. Ses enfants, on veut les aimer, mais pas seulement. C'est facile d'aimer les plus petits. Les aides-moniteurs aussi, je veux les aimer de ton amour, Jésus-Christ, et leur faire la place nécessaire. Et puis chacun d'entre nous, Seigneur, considérer ceux qui sont timides, valoriser, encourager et peut-être calmer les ardeurs de certains si nécessaire, mais en les prenant bien fort dans nos bras et en leur disant qu'ils sont importants. N'est-ce pas la manière d'agir de Christ avec nous? Une nouvelle communauté, il faut donc s'attendre, pour une nouvelle communauté, il faut donc s'attendre à des pratiques toutes particulières et qui devrait nous différencier de toute autre association. Je voudrais finir en relisant des instructions que Christ, de son vivant, nous a laissées par l'évangéliste Jean, et qu'il a laissées à toutes les générations, à chacun d'entre nous, pour notre Église, et comme trame de fond à ce camp. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle par l'intermédiaire de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes vous, chacun ici, moi-même, mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Prions. C'est vrai, Seigneur, c'est un grand défi, Seigneur, pour nos vies. Moi qui ai tendance à l'égoïsme, au repli sur moi-même, un grand défi. Merci Seigneur parce que cette communauté, Seigneur, est une communauté où on peut s'exercer ensemble. On peut essayer. On va peut-être se tromper, je vais me tromper, Seigneur. Donne-nous cette libéralité de pouvoir aller nous voir les uns les autres, de partager avec cet objectif de grandir de ton amour, Jésus-Christ. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Seigneur, que l'amour dont tu nous as aimés et qui a transformé nos vies, Seigneur, soit le moteur de notre témoignage, le moteur de notre vie, le moteur de partager, Seigneur, de te partager, Seigneur Père. Seigneur, tu es important ici. Bénis cette église. Tu vois chacun ici, Seigneur. Celui qui est caché derrière la fenêtre là-bas. Seigneur, souffle-lui, Seigneur, que tu l'aimes dans ton oreille, qu'il est important pour toi. Souffle-lui, Seigneur, qu'il est important pour toi, Père. Seigneur, on ne veut pas souffler, nous, autre chose que cela, mais on veut, Seigneur, appuyer ce que tu nous souffles dans les oreilles à chacun d'entre nous. Seigneur, c'est formidable de t'appartenir. C'est formidable que tu sois dans nos vies, Jésus-Christ. Nous t'aimons. Sois loué, béni, Seigneur. Amen.
Alors c'est vrai que nous avons la chance ce matin d'avoir plusieurs des personnes que l'Église soutient ou a soutenues. Et je vais laisser la place à Noëlla maintenant pour qu'elle nous donne quelques nouvelles de sa part, de son ministère. Juste une petite question, un petit rappel, un petit clin d'œil. Est-ce que quelqu'un a une idée de depuis combien de temps l'Église est à côté de Noëlla pour la soutenir? Alors en fait, j'ai posé la question à Noëlla tout à l'heure. Moi, je me disais, ça doit faire bien plus de 10 ans. En fait, ça fait 18 ans depuis le début du ministère de Noëlla. Voilà, je te laisse la place.
Bonjour à tous. Et oui, ça fait 18 ans. 18 ans que vous êtes fidèles à mes côtés. Vraiment, je veux vous remercier pour ces 18 années de fidélité. Et puis, vous parlez un petit peu de cette année, qui a été une année très particulière pour moi. Déjà parce que bon, j'ai déménagé, j'ai commencé mon ministère à Lyon il y a plusieurs années, ensuite à Aix-en-Provence, ensuite à Toulouse. Et puis, cette année, le Seigneur m'a ramené à Lyon. Grâce à Jean-Philippe qui est là avec moi et on a cheminé ensemble cette année et puis on s'est mariés cette année le 27 avril donc j'avais amené une photo. Donc c'était une très très chouette journée qu'on a passée ensemble avec nos familles et pas mal d'amis. Et je veux aussi remercier le Seigneur parce que nos deux familles ne sont pas chrétiennes et ça a été une journée forte pour eux aussi de sentir la présence du Seigneur, l'amour qu'il y avait les uns entre les autres. Et je crois que autant ma famille que la famille de Jean-Philippe a beaucoup été touchée. Donc voilà, et j'ai mis une année à deux parce que bon, même si on s'est marié en avril, Jean-Philippe était déjà à Lyon au début de l'année, et donc on a pu vivre le ministère déjà en partie ensemble cette année. Et pour moi, c'était très chouette aussi de plus être toute seule dans le ministère, mais d'être avec Jean-Philippe et de l'avoir à mes côtés, qu'on puisse prier ensemble pour les étudiants et être ensemble, porter les choses ensemble. Et donc on peut passer à l'autre. Photo, voilà. Donc, on n'était pas que tous les deux non plus. On avait une équipe cette année à Lyon. Donc, en fait, ces trois dernières années, il n'y avait pas d'équipe. Les étudiants se débrouillaient un peu tout seuls avec cette personne-là, qui est Carole, qui est une prof. Et dans son temps libre, elle aidait le groupe. Donc, depuis 3 ans, voilà, il n'y avait pas vraiment d'équipe Agapé sur Lyon. Et cette année, il y a eu un renfort au travers donc de Jean-Philippe et moi, et puis du couple qui est au bout de la photo là, qui vient des États-Unis, et de deux stagiaires qui ont passé un an à servir le Seigneur avec nous cette année. Donc ça faisait des années que les étudiants à Lyon priaient pour que des équipiers arrivent, et puis cette année il y a eu une belle petite moisson. Malheureusement, ça s'arrête là, pas tout à fait, mais les deux stagiaires donc ont fini leur année et puis elles continuent leur chemin ailleurs, donc elles seront plus avec nous l'année prochaine. Et puis Audrey, ma collègue, est enceinte, donc elle va avoir un enfant à la rentrée, donc elle sera moins disponible. Donc l'équipe va se réduire encore un petit peu l'année prochaine, mais bon, on sera là quand même. Et puis la photo d'après. Donc les équipiers, on est là pour encourager, pour soutenir, pour former les étudiants qui sont présents dans le groupe. Et puis dans le groupe, on a là une dizaine d'étudiants cette année qui se sont levés et qui ont pris davantage de responsabilités pour organiser les différentes activités. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'équipe serviteur, le groupe serviteur. On est au service d'Agapé Campus Lyon, et donc chacun à son niveau a eu l'occasion soit d'organiser des week-ends, soit d'animer des petits groupes, d'être dans le comité prière, enfin voilà, d'encourager les autres dans différentes actions du groupe. Donc c'était très chouette de travailler avec eux, même si ça a été très dur aussi cette année. C'était un défi d'arriver à travailler ensemble, puisque depuis 3 ans les étudiants travaillaient tout seuls et ils ont eu un peu l'impression qu'on venait les envahir. Enfin, ils ont eu du mal à comprendre notre rôle et il y a eu tout un travail de communication, de gestion de conflits. Ça a été dur d'arriver à chacun trouver notre place. Mais bon, voilà, avec l'aide du Seigneur, petit à petit, on y est arrivé. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris cette année, même si ça fait 18 ans que je suis dans le ministère. Je crois que c'est une année où j'ai le plus appris à vraiment laisser le Seigneur agir. Et il y a plein de fois où j'étais écrasée, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et je me tournais vers Dieu et à chaque fois, le Seigneur était là pour me dire, mais laisse-moi faire, je vais le faire. Et bon, ça a été vraiment une année forte pour ça aussi. Et puis bon, heureusement aussi que j'avais le soutien de Jean-Philippe pour ça. Et donc, on a bien fini l'année. Il y a eu des moments où on savait pas si on allait rester jusqu'au bout, mais le Seigneur nous a aidés à persévérer et à trouver un fonctionnement ensemble. Et donc, du coup, on va démarrer l'année prochaine de façon bien plus sereine. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Et puis ben ensuite on va passer, enfin là il y a un petit montage qu'une étudiante a fait et puis bon avec l'aide de Jean-Philippe aussi on a quelque chose qui va retracer un petit peu toute cette année ce qu'on a vécu, enfin les grands événements qu'on a vécu à Lyon cette année avec les étudiants Agape Campus. Donc c'était un petit aperçu des grands événements qu'on a eu tout au long des mois, en plus de nos soirées hebdomadaires ou enfin de ressourcement, d'édification des étudiants, des petits groupes, de l'accompagnement individuel. Enfin, c'est pas que ça l'année, mais c'est un petit reflet. Et au travers de tout ça, ben notre prière et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ben les étudiants grandissent dans leur foi. Enfin, les étudiants chrétiens ont beaucoup grandi cette année. Plusieurs se sont engagés dans différentes responsabilités qui leur a permis de découvrir l'aide du Seigneur et le service au Seigneur. Et puis on avait aussi trois petits groupes découvertes avec des étudiants qui ont cheminé dans la découverte de l'Évangile. Il y a une jeune qui s'est convertie cette année. Les autres sont encore en chemin. Et voilà, le Seigneur continue de travailler dans les cœurs. Et merci pour vos prières pour que ces étudiants puissent aller toujours plus près du Seigneur et recevoir son amour et puis l'aimer aussi en retour. Voilà.
Alors, merci à Noëlla. Oui, c'est vrai, c'est important d'avoir des nouvelles quand même, parce que prier pour quoi? Pour qui? Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre des visages sur les noms et de voir réellement ce que représente le travail. On arrive au programme de la semaine. Alors, c'est les vacances. Je pense que vous l'avez remarqué. Le programme est plus léger. Alors, hier matin, on avait une matinée de travaux. On en remet une samedi prochain parce qu'on ne voudrait quand même pas garder le privilège de pouvoir travailler dans l'église juste pour nous. Si des personnes ne pouvaient pas venir hier, ils ont encore la possibilité de venir samedi prochain. Ce serait une petite matinée de travaux, mais il y a encore d'autres petites choses à terminer. Alors n'hésitez pas, contactez-moi, c'est bien de savoir un petit peu le nombre que l'on va être avant de se retrouver. Dimanche prochain, le culte ici dans cette salle. Sinon, la semaine encore après, donc du lundi 15 au vendredi 19, le club d'été, donc à la salle Gaston Laverrière. On a déjà eu beaucoup d'informations par rapport à ce sujet, encore même ce matin. C'est important de continuer à prier pour ce projet. On l'a déjà dit, le nombre d'enfants inscrits est de 78. C'est vrai que c'est réjouissant. C'est aussi une magnifique réponse aux prières. On a prié pour que des enfants viennent. Et voilà, 78 enfants. Merci Seigneur. Il manque encore un aide-moniteur. C'est juste, hein?
Ouais, ouais. C'est justement pour Philippe. Alors,
voilà, voilà. La condition juste, c'est de pouvoir être présent du début jusqu'à la fin de la semaine pour qu'il y ait une suite dans le suivi des équipes et des enfants. Il y aura aussi une réunion de prière qui est prévue le jeudi. Donc ce sera le jeudi 18 de 17h45 à 18h30, trois quarts d'heure, c'est pas très long, à la salle Gaston Laverrière. Donc c'est important de prier avant, c'est aussi important de prier pendant. Et puis le camp va se terminer le vendredi soir, donc le 19. Alors, à la fin du camp, il y aura un apéritif qui sera offert à chaque enfant, mais aussi aux familles. Alors, c'est important aussi qu'il y ait des choses à manger, à partager, à boire. Vous pouvez tous préparer quelque chose, vous pouvez participer. Contactez Florence pour qu'il y ait quand même une bonne vue d'ensemble, que ce soit équilibré, que ce soit bien, quoi. Et puis, pendant la collation, on va devoir faire le nettoyage des locaux parce que la salle doit être rendue le vendredi soir, juste le dernier jour du camp, à 20h. Donc, le seul moment où on peut faire les nettoyages, c'est pendant la collation. Et là, il manque encore du monde pour faire les nettoyages. Voilà, c'est important de prier, mais c'est aussi important d'agir. Et il manque des personnes pour cela et c'est bien qu'on rende une salle et des locaux propres à la commune qui les met à notre disposition gratuitement. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Ah oui, voilà. Alors, dans toute organisation comme ça où il y a beaucoup de bénévoles, voilà, il y a quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment et c'est le photographe. Donc c'est important aussi pour les enfants de pouvoir suivre comme ça, d'avoir des repères. C'est important de garder une trace et c'est aussi important parce que chaque matin, il y a comme ça un petit diaporama qui est fait pour se rappeler de ce qui s'est passé la veille. Donc si quelqu'un a des connaissances en photo ou est à disposition pendant la semaine, donc là aussi, il faut pouvoir suivre un petit peu pendant toute la semaine pour que tous les jours, il puisse y avoir un petit clin d'œil sur ce qui s'est fait la veille. C'est d'autant plus important que ça arrive un petit peu à la dernière minute, une semaine avant. Donc, si vous avez des connaissances qui pourraient faire cela, n'hésitez pas à les contacter. Et puis, surtout, un immense merci à toutes celles et tous ceux qui s'engagent dans ce travail. C'est vraiment chouette de pouvoir faire cela avec notre Seigneur. Une annonce vraiment à l'avance, mais comme c'est les vacances, il y a peut-être certaines personnes qui vont partir. Le 18 août, c'est vraiment longtemps à l'avance, il n'y aura pas de culte ici. Le culte va se passer à la Lècherolle, ce sera notre journée à la montagne, le 18 août. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore un verset, un proverbe. Le verset 5 du chapitre 30. Toute parole de Dieu est pure. Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.